France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Nastassia Martin, anthropologue et écrivaine, titulaire de la chaire CNRS Habitabilité de la Terre et Transition Juste à l'Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la Sorbonne.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pensons aux 200 000 glaciers qui tempèrent la Terre depuis 2,6 millions d'années, à ces entités prodigues qui, en fondant doucement, rendent la Terre habitable. N'est-il pas notable que ces seigneurs du temps soient jusqu'ici restés en marge des politiques de la conservation ? Même le droit de l'environnement les oublie dans leurs textes. C'est un comble, en effet. Les puissances massives d'où flue la possibilité de la vie sont exclues de la vie. Figurons-nous les couvertures blanches des glaciers qui renvoient le rayonnement solaire, l'air qu'ils rafraîchissent, l'eau qui sera bu par tout ce qui vit à l'aval. Imaginons les océans qui reçoivent les fleuves chargés de limons glaciaires, les océans qui, en s'évaporant, restituent leur couverture neigeuse aux géants d'altitude. Écoutons la résonance musicale du dialogue entre un ciel chargé d'orage et une montagne nouvellement vêtue. Nous savons tout cela, c'est élémentaire. Et pourtant, les grands cycles vitaux ne sont plus pensés que comme des variables d'ajustement. Keep it rolling, the show must go on. Oui, nous sommes nombreux à partager le même constat, la modernité s'est emballée. Elle a fait une grandiose et éloquente sortie de route. Les conditions de sa reproduction infinie sont en train d'achever les ferments vitaux que les glaciers incarnent, l'amont de la vie. La perspective est dramatique et largement documentée. L'eau des mers et océans qui monte de plusieurs dizaines de mètres, les traits de côte qui changent, les îles qui disparaissent, les migrations climatiques, l'assèchement de la terre, la soif et la faim qui menacent, et comme d'habitude, les plus précaires qui payent le prix fort pour avoir mené une vie aux prises avec les éléments et à l'écart de la richesse monétaire. Ils seront engloutis, assoiffés, affamés, brûlés, soufflés, emportés. Où faudra-t-il vivre demain pour se mettre à l'abri ? Dans des bunkers sous la terre ? Dans de riches villas surélevées sur Mars ? Qui seront les heureux élus qui survivront au désastre ? La réponse prédéfinie par ceux-là même qui ont généré la question fait froid dans le dos. Bonjour Nastassia Martin.
Bonjour.
Ce texte, c'est vous qui l'avez signé pour un livre qui paraît aux éditions Paulsen, Les sources de glace, avec les photographies d'Olivier de Sépibus, et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui avec vous, alors que se déroule la première journée mondiale des glaciers. Vous qui vivez au pied, justement, des glaciers de la Mèche dans les Alpes, c'est l'occasion aussi de revenir sur votre parcours pour comprendre ce qui a nourri votre travail d'anthropologue et d'écrivaine, spécialiste des populations subarctiques. Et votre histoire, Nastassia Martin, elle commence le 24 février 1986 à Grenoble. C'est le jour de votre naissance. Et voilà ce que l'on pouvait entendre ce jour-là aux informations.
Il n'y aura pas de nouveau lancement de navette spatiale américaine avant au moins un an. Un an, en effet, sera nécessaire aux techniciens de la NASA pour modifier les fusées d'appoint du vaisseau spatial qui sont à l'origine de la catastrophe de Challenger. Conséquence du gel, le prix des légumes flambe. Depuis dimanche, on assiste en effet à une valse des étiquettes sur le poireau, les salades et les choux de Bruxelles.
Il y a une heure environ, moins 8 degrés à Lille-et-Beauvais, moins 5 à Deauville, moins 2 à Dinard, et à la même heure, plus 3 degrés à Bourg-Saint-Maurice. Il ne fait pas spécialement froid en montagne, plutôt doux.
Avalanche de plaques ou de poudreuses. L'avalancheur, un lanceur de flèches explosives. Mais malgré ce travail de prévention et d'information, la montagne reste imprévisible, dangereuse.
France Inter, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Et c'était donc le 24 février 1986, Nastassia Martin. Imprévisible et dangereuse, c'est comme ça que vous percevez la montagne, vous aussi, ou pas ?
Oui, je pense qu'on peut dire ça, imprévisible et dangereuse, et instable et incertaine. Et cette question de l'incarnation d'une forme de menace, bon, bah, on vient de l'entendre, elle était déjà présente il y a bientôt 40 ans.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, un sentiment qui s'intensifie avec ces montagnes qui s'effondrent sous l'effet de la fonte du permafrost et ces glaciers qui fondent et qui emmagasinent des poches d'eau qui deviennent des véritables problèmes pour les villages et voir les villes en amont. Et on a eu là, l'année dernière, l'exemple flagrant de la possibilité de la catastrophe avec ce qui s'est passé à la Bérarde.
Oui, absolument. Avec ces glaciers, cette montagne qui change évidemment sous les effets du réchauffement climatique. On va en parler avec vous. 24 février 86, donc votre naissance à Grenoble. Il faisait doux apparemment ce jour-là à la montagne. Ces montagnes qui se sont donc penchées sur votre berceau, Nastassia Martin. Vous viviez où d'ailleurs ? À Grenoble vraiment ou aux alentours, à la montagne ?
Non, j'ai grandi sur le balcon de Belledonne.
Ah oui. Et donc, c'était quoi votre environnement exact ?
Bon, globalement, c'était la campagne. Je n'ai pas vraiment vécu en haute montagne, comme c'est le cas maintenant, là où je vis, dans les Hautes-Alpes, sur le canton de la Grave. Donc, c'était plutôt un contexte campagnard, dans une ferme, en réalité, avec pas mal d'animaux tout autour et des parents très, très engagés sur la question des politiques sociales. Tous les deux professeurs à l'université de Grenoble, dont j'ai quand même baigné dans la question sociale avant de baigner dans la question de l'écologie politique et de l'anthropologie.
Ouais, donc politique et sociale, c'est des mots qui ont résonné très tôt pour vous ?
Absolument, oui, ouais. Dès mon plus jeune âge.
Ouais. Pourquoi vos parents ont choisi ce prénom de Nastassia ?
Ça vient de mon père qui, dans les années 80, a mené pas mal d'enquêtes en Russie soviétique et qui est revenu avec cette idée de me prénommer ainsi, alors que je suis plutôt franco-italienne.
Ouais. Donc il y a aussi quelque chose de leur engagement jusque dans votre prénom ?
Jusque dans le prénom, exactement. Ouais.
Quelle sorte d'adolescente vous avez été, Nastassia Martin ? Dans ces années, donc à Belledonne.
Férale.
C'est-à-dire
Oui, férale, assez déconstruite, dans le sens que mon père est mort, j'étais assez jeune, j'avais 15 ans. Ce qui a fait que j'étais quand même, lorsque j'étais au lycée, en décrochage scolaire assez vite. Et que, quelque part, c'est ces montagnes de la Grave, de la neige, qui m'ont vraiment sauvée de trajectoires plus complexes. C'est-à-dire vraiment ce rapport à la verticalité, la possibilité de se remettre à la verticalité de ma vie. Voilà, ça, c'est vraiment l'alpinisme et le ski de haute montagne qui m'ont permis, entre guillemets, de m'en sortir.
Ouais. Donc ça, c'est des activités que vous avez eues assez tôt, en fait.
Oui, oui, très très jeune, à partir de 15-16 ans.
Ouais.
Et par ailleurs, et c'est là où ce texte, Les sources de glace, il vient pas de nulle part, parce que mon rapport à l'anthropologie est vraiment entremêlé avec ma pratique de l'alpinisme et tout simplement ma vie en montagne, et aussi au fait que les raisons pour lesquelles je suis partie en Alaska pour mon master lorsque j'étais à l'école des études en sciences sociales sont vraiment liées à ce territoire, parce que c'est là où j'avais rencontré les premiers Alaskiens qui m'avaient proposé de...
Qu'est-ce qu'ils venaient faire alors dans les Alpes, ces Alaskiens ?
Eh bien, fuir la modernité, non, c'est un peu ces personnes un peu offspring de la Beat Generation, un petit peu sur le retour, qui finalement cherchaient des lieux où il était encore possible de faire du ski, ce qu'on appelle du ski freeride, hors piste. Ouais. De la manière la plus libre, avec tous les guillemets qu'il faut, possible. Et il se trouve qu'à la Grave, il y a un téléphérique, comme vous le savez, et que ça a attiré un certain nombre de personnes, notamment venues des États-Unis, des pays scandinaves, etc., qui fait qu'on a une population extrêmement plurielle à la Grave.
Et donc, vous rencontrez ces Alaskiens et vous dites, tiens, j'irais bien en Alaska, en fait, c'est tout simple, c'est comme ça que ça s'est passé ?
Oui, alors c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut que je travaille pour pouvoir payer mes études. Et donc, il me propose de venir faire des jobs d'été. Et à ce moment-là, j'ai 17-18 ans. Et c'est comme ça que je pars les premières fois. Et je fais tout un tas de petits boulots en Alaska, entre Anchorage et Juneau. Et finalement, à ce moment-là, je suis en licence de sociologie à Grenoble. Et il se trouve qu'en 2005, me tombe dans les mains le livre de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, et que c'est une sorte de fulgurance, de révélation, et que je comprends qu'en fait c'est véritablement ça que je veux faire, l'anthropologie de la nature. Je ne savais pas que ça existait. Ouais. Là, je réalise qu'il y a peut-être une voie de sortie et que peut-être l'inadéquation au monde moderne que je ressens découle de tout un processus historique et culturel. Et donc, j'écris un projet que j'envoie à Philippe Descola à ce moment-là sur justement l'Alaska, avec l'ambition de continuer à y travailler dans les années qui allaient suivre.
Et il l'accepte, ce projet ?
Et il l'accepte.
C'est-à-dire qu'il devient votre directeur de thèse ?
Et il l'accepte et il devient mon directeur de thèse. Et ce qui, moi, m'a énormément marqué, d'ailleurs, il ne le sait certainement pas, parce que je ne lui ai jamais dit, mais c'est que le mail de réponse qu'il me fait à ce long projet, hein, c'était je lui avais envoyé 60-70 pages sur la chasse aux loups en Alaska. Le mail de réponse qu'il me fait en m'invitant à venir le rencontrer au laboratoire d'anthropologie sociale arrive sur ma boîte mail le 23 juin, qui était la date anniversaire de la mort de mon père. Donc voilà, il y a quand même tout un...
Vous avez vu un signe quelque part ?
Oui, absolument. Je me suis dit que voilà, peut-être que c'était vraiment ça.
C'est donc un livre par de la nature et culture qui a changé votre vie. On peut avoir comme ça des livres qui bouleversent complètement le parcours d'une personne.
Et c'est oui, c'est le cas. Ouais.
Parce que vous parlez d'une fulgurance. C'est vraiment ce que vous avez ressenti à la lecture de ces pages.
Oui, vraiment. C'est-à-dire que des manières de sentir que finalement la sociologie que j'étudiais était insuffisante pour saisir des formes de relations entre des humains et des non-humains, et que peut-être il y avait quelque chose à tisser entre ces deux mondes-là qui ne serait ni la sociologie ni la biologie, mais encore autre chose. Oui, enfin, lorsque je découvre le travail de Philippe Descola, il met des mots sur des intuitions que j'avais eues sans pouvoir les formuler, parce que je n'avais pas encore les outils conceptuels pour les formuler.
Au sujet de la culture et au sujet de la nature en particulier, on va écouter Philippe Descola lui-même. C'était en novembre dernier dans la grande librairie sur France 5.
On m'a beaucoup reproché de dire que la nature n'existe pas. Alors, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que la nature n'existe pas pour tout le monde et qu'elle est une création de l'Europe moderne qui a séparé à un certain moment les humains des non-humains et de ce fait a donné comme mission aux humains de tout contrôler dans ce qui n'était pas eux et de transformer, au fond, avec l'aide du capitalisme triomphant, les non-humains en ressources.
Voilà, Philippe Descola, qui a donc été votre directeur de thèse, Nastasia Martin. La nature n'existe pas pour tout le monde, c'est une création. Ça, c'est encore une idée, un concept qui est mal compris aujourd'hui par nos autres occidentaux, quand même.
Oui, absolument. C'est vraiment très, très difficile à déboulonner. Après, aujourd'hui, dans les milieux militants ou les milieux intellectuels, c'est une idée qui a fait son chemin et sur laquelle on s'accorde. Mais néanmoins, si on regarde du point de vue de l'institution, des institutions et des politiques publiques, etc., enfin, la nature existe et la culture existe.
Et pourquoi c'est important de le comprendre, justement, ce concept ? Que la nature, c'est une création purement intellectuelle, quasiment
C'est important de le comprendre parce que sinon, on ne peut pas repluraliser les réponses qu'on a apportées à cette question de la crise écologique et climatique. On voit bien qu'en fait, parce que la nature continue d'exister, parce que la nature continue d'être une ressource à exploiter ou à protéger, le type de réponse à la crise va forcément être technosolutionniste. Donc on n'a pas d'autres alternatives, pour moi, en tout cas en tant qu'anthropologue, que de questionner la formulation même du problème.
Donc vous conseillez à nos politiques de lire un peu plus Descola, c'est ça, pour faire avancer le monde ?
Oui, ou tout simplement de s'intéresser à l'anthropologie, non comme des effets de folklore, mais comme des questions cosmopolitiques centrales qu'il va falloir véritablement adresser.
France Inter. La Terre au carré.
À l'extrême-orient de la Russie, une terre volcanique, de feu et de glace. Le Kamtchatka. Nastasia a passé les 5 dernières années de sa vie entre des bibliothèques parisiennes et les forêts du Kamtchatka. Elle a partagé le quotidien d'une famille Even, un peuple d'éleveurs de rennes. Après 2 années d'absence, Nastasia est de retour. Je l'accompagne. Si Nastasia revient aujourd'hui, c'est aussi pour leur présenter sa fille, Ayla.
Extrait d'un film que vous avez réalisé avec Mike Magidson l'année dernière, Nastassia Martin, Kamchatka, un hiver au pays Even. Le Kamchatka, ça a été le deuxième terrain de recherche anthropologique pour vous ?
Oui, absolument. J'ai commencé mes recherches en travaillant auprès des Gwich'in, qui sont un collectif de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans le nord-est de l'Alaska, et je me suis intéressée aux manières dont ils répondaient à la crise climatique à laquelle ils faisaient face, qui était pour eux, enfin, qui était absolument pas théorique, mais qui était une véritable réalité existentielle de questions d'animaux. Qui ne migrent plus, de saumons, et d'ailleurs c'est toujours le cas, hein, qui ne remontent plus les rivières, de feux de forêt, d'incendies incontrôlables, d'effondrement des berges, de crues, etc., etc. Et par la suite, j'ai posé le regard vers l'ouest, donc notre est, et j'entamais un travail au Kamchatka.
Notre grand est alors, hein, parce qu'il faut le situer est. Peut-être géographiquement, le Kamchatka, parce que c'est une péninsule qu'on ne connaît pas bien. C'est l'extrême est de la Russie, on pourrait dire les choses comme ça.
Voilà, c'est au sud de la Tchoukotka, au nord du Japon.
Voilà, c'est ça. Donc ça plonge dans l'océan Pacifique.
Voilà, hein. Voilà. C'est extrêmement volcanique.
Terre de volcan. Et comment on fait le lien alors entre l'Alaska et le Kamchatka ? Comment on choisit un terrain d'étude quand on est anthropologue en fait ? C'est le hasard des rencontres ou c'est vous qui aviez déjà une vision d'un terrain que vous souhaitiez explorer ?
C'est une hybridation entre les deux. Non, il y a des fulgurances de terrain. Encore une fois, il y a des choses qui se passent sur le terrain, comme cette fois où j'étais accompagnée de chasseurs Gwich'in, non loin de Fort Yukon.
Donc en Alaska.
En Alaska, et qu'ils m'ont introduit à ce radar américain qui surveillait encore l'autre côté. L'autre côté du détroit de Bering, donc radar rescapé de la guerre froide. Et là, évidemment, lorsque cette personne m'a dit « mais je me demande bien ce qu'ils en pensent, les chasseurs autochtones de l'autre côté du détroit de Bering, lorsqu'ils passent sous les mêmes radars russes qui surveillent notre côté du détroit », évidemment, je me suis dit « oulala, en fait, la situation, le terrain sur lequel j'ai travaillé jusqu'à présent est dramatiquement trop réduit. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut évidemment élargir. » Et puis après, il y a des raisons historiques, hein, tout simplement, qui éveillaient mon intérêt d'anthropologue, et que Vitus Bering, il est parti du Kamchatka pour, entre mille guillemets, découvrir l'Alaska, que l'Alaska, avant d'être américaine, a été russe, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée en 1867. Voilà, donc tout ça, c'était vraiment... J'avais envie de remonter le fil
c'est
de
ça.
L'histoire.
Il y a remonter, un fil, en fait. Ouais.
De remonter le fil de la mémoire. C'était vraiment ça. Pour moi, en fait, aller au Kamchatka, c'était comme faire retour, d'aller en amont, quelque part, des situations, de ce que j'avais pu travailler en Alaska.
Et là aussi, un monde en pleine crise écologique, hein, parce que c'est aussi le point commun, au fond, avec ces deux terrains, c'est ces habitants qui sont au quotidien confrontés à des changements environnementaux, à un univers instable. Donc cette famille, elle a fait le choix de redevenir chasseur-pêcheur en forêt, donc loin de toute institution politique et économique. Sauf que même, vous le racontez, dans cette forêt, là encore, ils ressentent les effets du changement climatique. Ça veut dire qu'il n'existe plus aujourd'hui de territoire qui soit imperméable au changement global ? C'est ça aussi que ça veut dire ou pas ?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire
quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète aujourd'hui.
Ah ben les grands cycles géochimiques n'ont pas de frontières, hein, ne connaissent pas les frontières. Et la question de ces qui est posée par le changement climatique, c'est-à-dire la question de ces éléments, les éléments au sens l'air, le feu, l'eau, la glace, la roche. Bon, c'est ces éléments-là qui sont en train de se lever avec le changement climatique. C'est eux qui sont en train de devenir complètement hors de contrôle et qui nous posent une question. Et cette question, elle est posée dans le Grand Nord. C'est bien ça que j'ai essayé de montrer avec les âmes sauvages. Mais elle est posée dans le Grand Nord avant d'arriver chez nous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'avant-poste. Les avant-postes, c'est fini. Et il n'y a plus non plus de refuge, puisque, où que vous soyez, cette situation-là viendra vous trouver. Les saumons ne remontent plus les rivières, point. C'est-à-dire, voilà, cet effondrement et ce sens commun qui ne fait plus sens, il est en train d'intervenir partout. Par contre, ce qui est différent, c'est la manière, les outils qu'on se donne collectivement pour répondre à ces formes d'effondrement. Et ce que j'ai essayé de travailler auprès des Évennes, c'était justement ces autres rapports aux éléments. Le chantier qui a été ouvert dans le dernier chapitre de ce livre sur les ethno-métaphysiques, c'est vraiment cette idée de y a-t-il d'autres manières que les manières modernes qu'on connaît de traiter ces éléments comme des milieux abiotiques ou des flux géophysiques qui sont absolument pas des agentivités. Y a-t-il d'autres manières de s'y relier? Quelles sont-elles? Quels sont les rituels qui sont performés pour tenter d'entrer en relation avec ces flux-là, alors que, a priori, c'est quand même très compliqué de dialoguer avec une montagne ou une rivière? Ouais. Voilà, ça c'est vraiment le chantier qui a été lancé à ce moment-là et qui continue d'être mon terrain de recherche actuel.
Et justement, est-ce que cette population, cette famille en tout cas, du Kamtchatka, avec sa cosmologie animiste, est-ce que ça lui permet d'affronter différemment finalement cette instabilité là du monde et du climat que vous décrivez?
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer en tout cas? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut tirer des enseignements?
Que peut-on apprendre?
Bien
entendu, déjà tout simplement le fait de se rappeler que des formes de dialogue entre des entités de composition différentes, un humain et une rivière, un humain et une montagne, un humain et name it, sont possibles. Donc c'est vraiment le travail de l'ethnographie, c'est de finalement décrire les manières, les rituels qui sont mis en place pour se remettre en capacité de dialogue. Néanmoins, évidemment, on ne peut pas plaquer ces manières de faire c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on doit retrouver en nous également, en nous-mêmes, les puissances de réinventer des formes de dialogue qui, de fait, ne peut plus être considéré uniquement comme une ressource, un paysage, un stock, etc., etc.
Donc c'est une autre façon de considérer les êtres qui nous entourent cette crise écologique pourrait nous permettre en tout cas de renouer ce dialogue aujourd'hui. Mais est-ce que vous l'observez dans nos sociétés là encore? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à bouger? Quelle est votre analyse vous là-dessus?
Oui, alors ça, moi j'en suis absolument persuadée. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'émergence de tant et plus de collectifs militants et citoyens qui justement remettent au travail la question de leurs attachements au milieu dans lesquels ils vivent, qui redevient vraiment une question mise en débat et censément devant revivifier la question démocratique, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire de cesser d'accepter que la normativité sur ce qu'on doit faire des milieux que l'on habite, ou là, dans le cas des sources de glace, des montagnes et des glaciers, ouais, des montagnes qui s'effondrent et des glaciers qui fondent, eh bien que, finalement, les deux seules alternatives qu'on ait pour se relier à cette montagne, ce soit d'un côté l'aménagement et de l'autre la conservation. Eh bien, vous écoutez les gens qui traversent ces milieux-là au quotidien, les bergers, les éleveurs, les chasseurs, les alpinistes, les naturalistes, qui sont des collectifs pluriels. Mais lorsque vous les écoutez parler, vous vous rendez compte que, en fait, il y a toute une autre manière d'être attaché à qui est là et qui n'a jamais disparu, finalement. Pas plus que les manières animistes des Gwich'in n'ont disparu lorsqu'ils ont été missionnarisés au XVIIIe siècle.
C'est ce que j'allais vous dire. Cet animisme qui nous paraît très lointain, à la fois historiquement, mais surtout géographiquement aujourd'hui, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il existe, il est possible, et il se développe déjà sur des territoires qui sont ultra proche de nous, en fait, qui nous entoure.
Oui, absolument, absolument. Et pour ça, encore une fois, il n'y a pas mille manières de redocumenter ces histoires-là. Il faut remener l'enquête, il faut refaire de l'ethnographie, il faut aller voir ces personnes-là, il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire, et il faut que ces voix, elles soient traduites.
Nastassia Martin, en août 2015, au retour d'une expédition dans les glaciers du Kamchatka, vous êtes attaquée par un ours qui vous blesse grièvement. Vous avez 29 ans. Cet accident dont vous dites qu'il était préfiguré, vous l'avez relaté dans un livre, Croire aux fauves. Vous nous en aviez parlé aussi à ce même micro en 2022. On ne va pas y revenir en longueur. Juste un mot, 11 ans plus tard, qu'est-ce que vous gardez de ce que vous avez appelé, vous, une rencontre ?
Je dirais que j'en garde, c'est tout simple en fait, j'en garde des traces au sens de des brèches et des fissures qui ont été ouvertes en moi physiquement, ont aussi ouvert des brèches dans ma manière, évidemment d'exister, d'être au monde, mais aussi dans ma manière de pratiquer l'anthropologie et l'écriture. Et c'est-à-dire que j'en garde que il n'est plus possible de prétendre que les objets de savoir que l'on pose dans le monde, un livre, un film, un article, ne sont pas le produit d'une histoire, d'un processus, et que ce processus-là, finalement, qui généralement dont on se rend amnésique, finalement, c'est ce processus-là qui est presque le plus intéressant à venir re-questionner. Donc cette question de la fabrique, des processus de savoir. Et ça, enfin, je pense que c'est quelque chose qui a durablement transformer ma pratique du travail d'écriture et de recherche en anthropologie.
Cette famille du Kamchatka, donc avec laquelle vous avez vécu à de nombreuses reprises à l'occasion de différents voyages, vous la revoyez toujours aujourd'hui ? Vous avez toujours de ses nouvelles ? Quel lien vous établissez avec elle ?
Alors ça, c'est une question à l'heure actuelle qui est très complexe et qui d'ailleurs... La réponse préside un petit peu à l'écriture de ce texte, les sources de glace. Il se trouve que oui, bien sûr, je suis en contact avec les personnes de la famille qui sont dans les villages. Néanmoins, depuis octobre, le petit collectif familial de Daria s'est disloqué parce que son fils Ivan, dont je parle énormément dans À l'Est des rêves, est parti en Ukraine.
Il est parti faire la guerre.
Voilà. Et nous n'avons plus de nouvelles depuis le mois d'octobre.
C'est un choix de sa part ? Il est parti comme volontaire faire la guerre ou pas ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Encore une fois, c'est des personnes qui, à l'année, lorsqu'ils ramènent au village, au camp de chasse et de pêche, l'équivalent de 300 euros par an, c'est énorme. Mmh. Là, en l'occurrence, il y a des sommes astronomiques qui leur ont été proposées, et notamment à toutes ces populations autochtones, pour venir nourrir l'effort de guerre. Mmh. Donc c'est un choix qui n'est pas vraiment un choix. Enfin, c'est... Voilà.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à l'idée de le savoir partir à la guerre ?
C'est l'horreur. Encore une fois, c'est très difficile de résister au sentiment de stupéfaction, de pétrification, de silence. Je viens d'ailleurs d'écrire une postface pour la sortie en poche à l'Est des rêves. Et en fait, c'est très difficile de se remettre à l'écriture. Bon, alors en l'occurrence, en ce moment, les atrocités ne manquent pas lorsqu'on allume les informations. Mais néanmoins, oui, là, ça touche quelque chose, pour moi en tout cas, ça touche quelque chose de vraiment...
Vous dites qu'il y a beaucoup central. De colère, hein. Vous éprouvez beaucoup de colère, en fait, face à cette situation.
Oui, absolument, ouais. De central et d'existentiel. Et on a du mal à... Finalement, lorsque vous avez écrit un livre entier pour essayer de traduire au mieux les manières dont ces personnes résistent aux injonctions et aux injonctions gouvernementales et à l'histoire coloniale et à l'effondrement de leurs écosystèmes, et qu'en fait, tout ça part en fumée... en un claquement de doigts, c'est difficile de vous dire que ce que vous faites a encore un sens.
Ouais, vous dites, vous écrivez hein, dans la postface dont vous parlez de ce livre hein, qui est donc édité en poche, sortira au mois de mai. L'obscénité qui me hante, c'est de l'imaginer, donc Yvan, hein, c'est lui dont il s'agit, quelque part sur le front parce que sa vie en forêt ne suffisait pas, ne servait à rien, n'était pas valorisée. C'est vrai ça ? Vous avez ce sentiment-là ?
Oui, enfin, c'est pas moi qui ai ce sentiment-là, c'est eux qui ont ce sentiment-là. Oui, absolument. Il y a vraiment une forme de honte entre guillemets face aux personnes qui ont choisi des trajectoires plus moderne entre guillemets et socialement acceptable que d'avoir décidé en conscience de devenir des marginaux parce que se sont eux-mêmes exilés entre guillemets en forêt. Donc ce choix là il tient tant qu'il y a un collectif, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas seul à s'être exilé. Mais il est fragile, c'est d'une fragilité inouïe. Et ça peut être, encore une fois, ça peut être détruit en un claquement de doigts. C'est difficile à... c'est difficile avec ça de continuer d'alimenter un désir d'écriture et un engagement réel dans l'écriture.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
D'après une étude publiée dans la revue Nature, depuis 2000, les glaciers des Pyrénées et des Alpes auraient perdu 40% de leur masse. Une situation due au réchauffement climatique et qui devrait empirer.
Une bonne partie des glaciers de notre territoire sont déjà condamnés. C'est le cas de tous les glaciers de basse altitude. Donc ça veut dire tous les glaciers des Pyrénées qui devraient disparaître d'ici 10 à 15 ans. C'est aussi tous les glaciers du massif alpin situés en dessous de 3500 mètres qui devraient disparaître d'ici 2050.
D'après les chercheurs, tous les glaciers du monde seraient touchés. Ils auraient en moyenne perdu 5% de leur masse. D'après les prévisions les plus graves, les glaciers pourraient disparaître d'Europe d'ici la fin du 21e siècle.
Nastassia Martin, vous êtes notre invitée au carré et votre actualité, c'est ce livre Les sources de glace avec le photographe Olivier de Sépibus. Aujourd'hui, c'est justement la journée mondiale des glaciers 2025 qui a été également déclarée par les Nations Unies année internationale de la préservation des glaciers. L'idée, c'est de sensibiliser le public au rôle essentiel, évidemment, des glaciers dans à la fois le système climatique, le cycle de l'eau et les conséquences considérables de leur fonte rapide. Quand on entend là ce qu'on vient d'entendre, 2100, à la fin du 21e siècle, quasiment plus de glaciers dans le monde, possibilité de ne plus en avoir. Enfin, c'est totalement hallucinant, en fait, d'entendre ça.
Oui, enfin, non, moi, c'est vers là qu'on va. Et même si les émissions s'arrêtaient demain ou si on arrivait à tenir les 1,5 degrés de réchauffement, ouais, ça ne changerait pas, enfin, du point de vue des climatologues et des glaciologues, ça ne changerait pas la question. C'est-à-dire que si on prend le cas des Alpes, en 2100, tous les glaciers des Alpes seront réduits à peau de chagrin ou auront disparu.
Et ceux des Pyrénées, complètement disparus également, avant même les Alpes. Les glaciers dont vous dites qu'ils sont les seigneurs du temps, pourquoi ?
Parce que ce qui m'intéresse dans la question de la glace, c'est la question de la mémoire. C'est vraiment cette idée que la glace porte en elle un souvenir. C'est ce que Claude Lorius en 1975 en Terre Adélie avait mis en lumière lorsqu'il a plongé ce bout de glaçon
dans son whisky
et que il a pensé que les bulles d'atmosphère enfermées dans son glaçon pouvaient être des témoins de l'atmosphère du passé. Et finalement, cette intuition a vraiment été point de départ du lien entre, ouais, voilà, c'est comme ça, enfin, c'est grâce à cette intuition qu'on a ensuite pu démontrer le lien entre climat et gaz à effet de serre.
Donc cette mémoire, donc, ça vous touche, donc ça vous intéresse, voilà, comme objet de mémoire aussi.
Oui, évidemment, puisque encore une fois, je suis anthropologue et tout mon travail est justement d'essayer de remonter le fil de la mémoire des personnes pour restituer leurs histoires. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette mémoire aujourd'hui, avec l'accélération du réchauffement climatique, elle est en train de fondre, de s'évaporer. Mmh. La mémoire s'évapore comme neige au soleil. Donc la question c'est, qu'est-ce que aujourd'hui, comment on se repositionne et comment on repense ces glaciers qui, de fait, sont en train de disparaître et cette mémoire atmosphérique des grands cycles géochimiques de la Terre qui est en train de disparaître, c'est-à-dire, faut s'imaginer, c'est les archives géochimiques de la planète qui disparaissent, eh bien, comment on se relie à cette question et quels sont les types de réponses qu'on va proposer? Est-ce qu'on va, et ça c'est plutôt ce vers quoi on va malheureusement, mais est-ce qu'on va proposer des réponses de type allopathique aux pathologies climatiques actuelles? Ouais. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on va mettre des bâches sur les glaciers? Oui. Et est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on va utiliser des pelleteuses et des tractopelles pour agglomérer la glace, accumuler la glace en un seul endroit et faire qu'elle fonde plus doucement?
Donc les idées d'ingénierie, quoi, finalement.
Oui,
c'est la technologie au service de ce qui se passe autour de ces entités.
Oui, et c'est, enfin, certaines des techniques peuvent paraître science-fictionnelles, mais ce sont des projets de recherche à l'heure actuelle extrêmement sérieux, comme envoyer du soufre dans la stratosphère, blanchir les nuages, arroser la calotte arctique pour en reconstruire l'épaisseur, y jeter des billes réfléchissantes pour ralentir sa fonte.
Tout ça pour éviter de baisser les émissions de gaz à effet de serre, au fond, parce que ça, c'est aussi dans l'idée de continuer un processus qui ne veut jamais s'arrêter aussi.
Oui, absolument. Et puis aussi dans l'idée de se faire croire que on va pouvoir réparer le climat, qu'on va pouvoir, encore une fois, le contrôler. Ces techniques de géo-ingénierie vont généralement main dans la main avec les techniques de transition énergétique qui sont aujourd'hui proposées par l'ensemble des entreprises carbonées.
On va écouter Annette Singh, professeure américaine d'anthropologie. C'était en 2018 sur France Culture.
Plus on va essayer de trouver des solutions technologiques aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, plus on va accentuer les dégâts sur l'environnement et les rendre irréversibles. Les ingénieurs ne pensent pas assez loin. Ils n'envisagent pas suffisamment les conséquences des solutions technologiques qu'ils proposent.
C'est
bien que certaines solutions supposément mirifiques, comme celle du capitalisme vert, d'après ce que je peux constater, ça ne fait que causer davantage de problèmes.
La voix d'Annette Singh, dont vous avez signé la préface du livre Friction, Nastasia Martin, et que vous avez également traduit. Comment, du coup, on s'y prend aujourd'hui pour repenser la question des glaciers, puisque c'est au cœur de l'actualité? Comment on repose le sujet sur la table, puisque, effectivement, ces entités semblent, ces dragons terrassés, comme vous l'écrivez, par une humanité qui a tout mis en œuvre pour domestiquer et annuler la puissance dont ils témoignent pourtant, ces glaciers?
Je pense que l'un des points de départ qu'on peut se donner, c'est déjà de décoloniser notre langage des sciences économiques.
Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Mais
c'est-à-dire que, concrètement, lorsque vous prenez les termes que l'on utilise pour parler de ces entités-là, ils sont absolument pétri d'économie.
Par exemple, vous pensez à quoi?
Par exemple, on parle de gains de neige à l'amont, de pertes en eau à l'aval, de bilans négatifs. Les glaciers ont des bilans, ils sont soumis au bilan, comme les employés des entreprises. On parle de ressources, même lorsque nous-mêmes, en tant que, entre guillemets, praticiens sportifs, etc., qu'est-ce qu'on va faire en montagne? On va se ressourcer, on va se dépenser une ressource pour une dépense, on va prendre l'air. C'est-à-dire prendre l'air, voilà. Tout ça, c'est des... Vous allez me dire, oui, mais que c'est des mots, c'est des expressions, mais en fait, les mots...
La sémantique, elle est centrale dans cette question des glaciers?
Non, elle est centrale tout court. C'est-à-dire, les mots, c'est l'une des choses les plus importantes dont on dispose en tant qu'humain pour s'échanger des idées et faire monde commun. Donc, si on ne réfléchit pas sur les mots, sur les concepts qu'on utilise pour parler des entités qui nous concernent et qui sont concernées par la problématique, on ne peut pas répondre autrement, encore une fois, que par des logiques de géo-ingénierie, de transition énergétique, etc. Enfin, de technosolutionnisme. Ce n'est pas possible. Donc il y a vraiment, je pense, un travail de reformulation des concepts et des images. Et c'est pour ça que la collaboration avec Olivier de Sépibus est vraiment pour moi importante. Le point qui nous relie, c'est...
Puisque lui est photographe, hein, c'est lui qui a réalisé toutes les photos des sources de glace.
Le point qui nous relie, c'est un point de méthode. C'est-à-dire, son problème à lui, c'est peut-on changer d'imaginaire sans changer d'imagier ? C'est-à-dire, si on prend au sérieux la proposition de Philippe Descola, qui nous dit « la vision scientifique du monde est d'abord une réalité picturale ». C'est-à-dire, on a d'abord un problème d'image. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez commencer à aborder la question de ces entités-là par un autre angle, il faut changer la focale. C'est-à-dire, donc lui, ce qu'il fait, et c'est aussi ce que je fais dans mon texte, c'est qu'il place son objectif à l'endroit du délitement, à l'endroit de l'effondrement, à l'endroit où c'est sale, à l'endroit où c'est terne, à l'endroit où on n'a pas envie de regarder.
C'est ça, c'est ce que vous dites d'ailleurs de ces glaciers, c'est-à-dire que le visage du glacier a changé. Hein. Il n'est plus celui qu'on connaissait, et encore moins celui qu'on aimait. Aujourd'hui, c'est vraiment cette caillasse, ce côté terreux, sableux, caillouteux, qui sont dans ces photos d'ailleurs, hein, qu'on retrouve. Et c'est ça que vous montrez de ces glaciers.
Oui, oui, il y a vraiment cette idée de défiguration, entre guillemets, encore une fois, et ça rejoint cette histoire de brèche, de fissures, de fractures.
C'est-à-dire que l'image... corps musclé vieillissant, un corps musclé qui vieillit.
C'est-à-dire que l'image solide, entre guillemets, qu'on avait de ces glaciers ne correspond plus à ce qu'ils sont, à la manière dont ils sont en train de se métamorphoser. Si cette image mentale ne correspond plus à ce que ces entités sont, dès lors, il faut en changer. C'est tout simple. Donc, il y a un travail à faire sur, évidemment, les images, et ça, c'est le travail, en tout cas, ça fait partie du travail des artistes, là, en l'occurrence, pris en charge par Olivier. Et il y a aussi un travail de la part des chercheurs, et pas seulement des anthropologues, mais toutes disciplines confondues, pour vraiment remettre au travail nos mots, nos concepts, pour repluraliser nos manières de saisir comment ces entités-là sont en train de se transformer.
Mais Anastasia Martin, je pense par exemple à la mer de glace où il y a énormément d'images qui représentent ces images très anciennes. On voit ces gens il y a un siècle sur la mer de glace et le comparatif avec aujourd'hui. Ces comparaisons-là, on les a sans arrêt sous les yeux. Et pourtant, ça ne fait pas bouger les lignes tellement. C'est-à-dire que même si on a effectivement ces images aujourd'hui de cette caillasse où la glace a complètement disparu, a reculé sur des centaines de mètres, on ne réagit pas forcément non plus d'une façon. Est-ce que c'est suffisant finalement cette démarche intellectuelle-là que vous décrivez ?
C'est-à-dire que c'est pour moi ce qui est important, évidemment que on l'a dit au début, ça ne changera rien au fait que les glaciers vont disparaître puisqu'ils vont disparaître. Mmh. Mais il y a une question qui est posée à cet endroit de cet effondrement de ces milieux-là tels qu'on les connaissait, c'est comment aujourd'hui encore une fois, confronté à cette situation de crise, et vous pouvez dire que ça ne change rien, mais les glaciers, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi en train de devenir une menace. Enfin, il y a la question des poches d'eau sous-glaciaires, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement qu'ils sont en train de reculer, c'est aussi que potentiellement, ils peuvent devenir des menaces.
Il y a un enjeu de sécurité, tout simplement. Mais...
Il y a un enjeu de sécurité. Donc la question, c'est vraiment comment on se redonne les moyens collectivement de penser nos relations, de penser nos relations à ces entités différemment.
Anastasia Martin, vous faites toujours partie de ce collectif, la Grave Autrement, qui s'oppose à ce projet de troisième tronçon du téléphérique, donc sur le glacier de la Girose, qui agite ce village des Hautes-Alpes. Il y a un dialogue qui est possible dans les villages concernés sur ces questions entre les pour, les contre le téléphérique, où ça fout un bordel monstrueux et où il y a une impasse quasiment dans le dialogue aujourd'hui.
Non, là encore, il faut absolument sortir. C'est comme notre problématique exploitation, protection, aménagement, conservation. On voit bien que, en fait, si on reste dans cette dualité, on va dans le mur, les pour, les contre. Non, ce qu'il faut voir, c'est entre guillemets, la beauté, c'est-à-dire la beauté que ça a produit, c'est la remise en dialogue collective autour de, aujourd'hui, quel avenir, quelle manière de se relier à cette montagne-là, à ce glacier-là, à ce territoire-là, on veut soutenir. Donc il y a vraiment, il y a une mise en dialogue avec les collectifs citoyens, la municipalité, les entreprises exploitantes, et ça, on ne peut pas réduire ça à du pour et contre. Il y a une question politique qui est en train d'être ressaisie par les habitants et habitantes du territoire.
Eh bien, en attendant, on peut découvrir les sources de glace, cet ouvrage donc à la fois de vos textes, Nastasia Martin, et des photographies donc d'Olivier de Sépibus, et c'est aux éditions Paulsen. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré à l'occasion de cette journée mondiale des glaciers. Et tout de suite, c'est l'heure de terminer cette émission avec vos messages et le répondeur de la Terre au Carré.
Salut la Terre au Carré, c'est Ludo de Villefranche-de-Rouergue. Je suis un regardeur de piaf, principalement dans mon jardin. J'ai la chance d'habiter en pleine Combrouze et du coup, il y a des piaf. Mais je me retrouve un petit peu en désarroi quant à savoir la bonne pratique pour les nourrir l'hiver. Des fois, il y a des versions qui disent les boules de graisse, ça leur fout du cholestérol. Il faut leur mettre à manger que quand il y a de la neige et qu'ils n'ont pas accès au sol. Si on les nourrit trop, ça devient des feignasses. Si on les nourrit pas assez, ils meurent. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un petit peu la bonne marche à suivre pour attirer les oiseaux dans les jardins et sans foutre la merde dans l'écologie des piafs, quoi? Bisous, monsieur l'âme.
Oui, bonjour, Annick de Rodez, en Aveyron. J'appelle à propos de l'émission La Tête au Carré. Je suis une fan des oiseaux et de la nature. Et c'est quasiment au quotidien que j'essaie de les écouter, de les observer et d'être un maximum plongée dans la nature. Je fais partie d'un centre de sauvegarde de la faune sauvage dans lequel les responsables et tous les bénévoles soignent et remettent en liberté tous les petits oiseaux et gros oiseaux d'ailleurs que l'on nous ramène. Merci pour votre émission.
Lionel de Sévrac-le-Château dans l'Aveyron. C'était pour vous dire à propos du sujet des oiseaux que moi j'ai eu un merle qui a passé tout l'hiver dans mon bâtiment car je suis agriculteur et je l'ai presque apprivoisé parce que je pouvais l'approcher et il partait pas et il se nourrissait avec l'orge des brebis qu'on donnait et qu'on tombait. Il était pas sauvage. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Christophe de Thonon-les-Bains. Simplement pour dire que le coucou, en tout cas, nous envoyons régulièrement en montagne, et très facilement, parce que la végétation n'a pas poussé au mois de mai, ou peut pousser, et donc il est beaucoup plus visible. Donc en montagne, si vous voulez voir des coucous, vous pouvez le faire. Après autre chose, on voit beaucoup de pies et de corneilles également. La seule chose, c'est que ces oiseaux sont des prédateurs des petits passereaux. Une petite régulation permettrait peut-être de sauver quelques petits oiseaux. Et enfin, quand vous avez parlé du chardonnay, le chardonnay, c'est un cépage. En principe, on fait du vin blanc avec. Par contre, le chardonneret, c'est un magnifique oiseau qui se nourrit essentiellement sur des chardons, en tout cas. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Bonjour, Edith de Bougival. Je vous appelle en relation avec votre émission sur les oiseaux. Je vous propose de vous rendre en baie de Somme du 12 au 20 avril prochain au Festival de l'Oiseau et de la Nature, où vous pourrez les observer, les écouter. Vous pourrez aussi apprendre à les reconnaître, à reconnaître leur chant, les découvrir dans des expositions de photos, dans des films, en compétition. Donc rendez-vous en baie de Somme dans quelques semaines. À bientôt.
Salut Mathieu, salut la Terre, bonjour à tous. Benjamin de Poincé49. J'appelais en réaction à la chronique de Cyril Dion et pour laisser un message. Alors je termine une saison de plantation et je suis riche alors d'arbres plantés. J'ai planté 17 km cette année donc auprès des agriculteurs. Donc ce qui équivaut à 17 000 arbres et arbustes. Donc yes, je suis riche. Et juste pour rappeler que à partir du 15 mars, réglementairement, toute intervention sur les haies est interdite pour la bonne cause, c'est pour respecter le cycle des oiseaux. Donc c'est à tous et chacun d'être vigilant et d'accompagner et d'approcher les agriculteurs avec diplomatie bien sûr pour que cette réglementation soit bien respectée. Et c'est non pas seulement les agriculteurs mais tous qui devons faire attention et jusqu'au 15 août, laisser les haies tranquilles et les habitants. Merci.
Et merci pour vos messages. N'hésitez pas à nous appeler pendant le week-end pour diffusion à partir de lundi 01 56 40 45 45. Merci à Valérie Ayestaraï qui réalisait cette émission, Anna Massardier qui a préparé ce dossier, Sofiane Aktib à la technique et Vincent Samuel pour les archives de l'INA.